C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Ça a été l'enfer dans les salles d'urgence du Québec encore en fin de semaine, comme c'est malheureusement souvent le cas, pour ne pas dire tout le temps. Il y a eu des infos d'employés, infirmières, infirmiers et autres qui nous parlaient du temps supplémentaire obligatoire. Il y a quelqu'un hier qui me disait que juste en partir de vendredi 16h jusqu'à hier matin 8h, c'était 39 cas de temps supplémentaire obligatoire. Et on s'est dit, il faut en parler. Et ce matin, deux invités que je vous présente. Mais d'abord, c'est Mélanie Paquette. Elle est infirmière à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et elle va nous parler un peu de ce qui s'est passé en fin de semaine, puis de façon plus générale, de ses conditions de travail. Madame Paquette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand. Ça me fait plaisir de vous parler.
Moi aussi, je suis bien content que vous soyez là. Parlez-moi de ce qui s'est passé en fin de semaine, là. Et malheureusement, on sait que ça se reproduit souvent. Vous êtes une infirmière, là. Vous êtes dans le domaine depuis quoi, une vingtaine d'années?
Oui, moi, je suis infirmière d'urgence depuis 2002. J'ai travaillé la plupart, la plus grande partie de mon temps à Maisonneuve. J'ai fait aussi un autre urgence sur la Rive-Sud. Puis, je suis retournée à Maisonneuve. Okay. Donc, ça fait 20 ans que je suis infirmière d'urgence. Puis, effectivement, en fin de semaine, ça a été la catastrophe.
Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Racontez-nous ça.
Ce qui est arrivé en fin de semaine, bon, moi, vendredi, j'étais pas là. Mais en fait, c'est que l'équipe de soir a été obligée de rester de nuit en temps supplémentaire obligatoire. Donc, toutes les infirmières de soir ont travaillé soir-nuit. Toutes les infirmières de nuit ont travaillé nuit-jour, 16 heures consécutives, et ainsi de suite. Donc, ça s'est passé de cette façon-là toute la fin de semaine. Donc, l'équipe était au bout du rouleau. Il y avait des infirmières qui pleuraient dans le coin partout, des infirmières qui n'ont pas eu le temps de manger, des infirmières complètement désespérées. Puis, je trouve ça épouvantable de voir de si jeunes infirmières déjà complètement découragées de la profession, malheureusement.
OK. Dans votre cas, là, on va juste ouvrir une parenthèse. Vous avez quitté en février, vous avez eu un diagnostic de dépression, puis vous êtes en ce qu'on appelle un retour progressif, là.
Exactement, oui.
OK. Donc, ça veut dire que vous, on peut pas vous imposer ce temps supplémentaire obligatoire?
Pas pour le moment, mais pas pour un longtemps. Là. C'est jamais accepté très, très longtemps. Là. Je peux faire avec pendant encore 2-3 semaines, mais après ça, je pourrais pas. Là.
OK.
C'est un certain temps.
Mais vos collègues infirmières, vous dites, elles sont épuisées, puis on les comprend là, quand tu as 8 heures entre la fin de ton corps puis le début de l'autre, puis c'est comme ça, puis... Si tu arrives en fin de semaine, on sait que ça arrive souvent. Là. C'est un niveau d'épuisement qui n'a pas d'allure.
Un niveau d'épuisement qui n'a pas d'allure. Ce qui veut dire plus de vie sociale, pas de vie familiale. C'est impossible pour nous. Donc, beaucoup de séparation, beaucoup de divorce, beaucoup de difficultés avec les enfants. Conciliation travail-famille rendue impossible en faisant des 16 heures. Des fois, c'est le conjoint qui ne peut pas aller travailler parce que l'infirmière fait 16 heures. Il y a des femmes monoparentales qui ne peuvent pas rester parce qu'ils ont des enfants. Donc, ça devient un casse-tête. Mais ce que je dirais le plus, écoute, je voudrais vous lancer un trait du cœur, puis j'ai le moton, j'ai voulu pleurer en disant ça. Mais ce que j'ai vu, là, M. Arcand, en janvier puis février, là, les gens mourir avec personne, la détresse dans les yeux, la quand on manque d'air, là, imaginez que vous respirez, là, puis que la seule chose que vous avez pour respirer, c'est une paille. Mais les gens, là, intubés, les gens qui n'avaient plus d'air, c'est comme ça qu'ils se sentaient. Donc, imaginez la panique des patients, puis imaginez notre désarroi à nous, les infirmières, de voir autant, je m'excuse, j'ai encore les larmes aux yeux, mais de voir autant, mais autant de gens mourir. C'était épouvantable. Donc, on est aussi un peu en guillemets, en choc post-traumatique, mais on est passionné par notre travail. Moi, je suis déchirée, je fais quoi, là? Je l'aime, mon métier, là, puis je veux pas refaire une dépression. Je veux sauver ma peau, mais je suis en amour avec mon métier à l'urgence. On fait quoi rendu là aussi?
Quand vous me dites des patients seuls, vous voulez dire quoi précisément quand vous me parlez de janvier puis février?
Quand je veux dire ça, c'est que durant la pandémie, les patients n'avaient pas toujours le droit d'avoir quelqu'un avec eux au chevet. Mm-hmm. Puis il y a des gens aussi qui sont seuls, puis qui n'en ont pas de famille. Donc ces patients-là, qui étaient seuls, peu importe la raison, que ce soit parce qu'on limitait les visiteurs ou parce que c'était des gens qui vivaient de la solitude, Écoutez, je peux pas, M. Arcand, un patient qui respire à 4 par minute, le laisser tomber, le laisser là mourir tout seul. Mais j'ai encore 7 autres patients à m'occuper. Donc, je décide quoi? Je suis à côté du patient qui est en train de mourir seul ou je vais aider mon patient qui, lui, a besoin d'une transfusion sanguine puis qui est sur le bord de l'arrêt cardiaque, l'autre côté ici. Donc, il faut choisir. Il faut choisir.
Il y a eu beaucoup de départs. Des gens qui ont fait le choix de partir et souvent, ce sont des gens qui ont de l'expérience. Vous, vous avez une vingtaine d'années bon, dans les salles d'urgence. On peut pas remplacer quelqu'un comme vous là avec quelqu'un qui débarque pour la première fois à l'urgence. C'est peut-être malheureusement ce qu'on est en train d'être obligé de faire. Là.
Oui, oui. Vous avez raison. On en a quand même, là, j'essayais tantôt de faire un calcul rapide là depuis que moi je suis partie, mais là je suis en retour progressif. Je calcule 16 personnes qui sont parties, qui ont démissionné. Nos trois patrons ont démissionné, les trois sont partis. La conseillère clinique aussi. Et toutes les filles qui avaient beaucoup d'expérience, là, la majorité sont parties. Donc, ça devient difficile. Nos patrons ont tout fait pour nous aider. Là. Nos patrons, c'était des anges. Là. Ils venaient la nuit pour nous remplacer. Ils venaient nous aider. Ils faisaient des corps. Puis eux, là, ils ont du travail à faire dans leur bureau quand même. Là. Puis malgré ça, nos patrons faisaient tout pour nous aider. Ils étaient sur le plancher avec nous. Puis malgré tout, on n'était pas assez.
Est-ce que j'ai bien compris que en raison de ce temps supplémentaire obligatoire, puis le fait qu'on pousse les infirmières, les infirmiers là, au bord de la fatigue, de l'épuisement, je devrais dire, on a jumelé le personnel, donc des groupes de deux pour essayer de minimiser le risque d'erreur?
Oui, mais ça, je vous dirais que c'est un choix personnel. Mais je dirais que mes collègues, les connaissants, là, on est quand même des à l'urgence, on est des têtes fortes, on est des gens performants. C'est sûr que quand on est fatigué, on monte toujours notre dose de médicaments qu'on prépare. Là, on veut donner la bonne dose de morphine, on veut donner les bonnes doses de médicaments. Donc, dans la fatigue, on est encore trois fois plus vigilant. Donc, c'est plus dans ce sens-là que on s'entraide. C'était ce que je voulais dire là, quand j'ai parlé à votre aux journalistes.
OK. Dites-moi, dans votre cas, allez-vous continuer, là, vous me parlez d'un retour progressif, est-ce que vous voyez revenir temps plein à l'urgence?
Mon problème, c'est ça. C'est que moi, je me sens plus capable à 46 ans de faire du temps plein. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a, par exemple, sur 2 semaines, 4 jours de congé. Mais avant la fin de semaine de congé qu'on a, on est toujours en TSO ou presque le vendredi soir. Ce qui veut dire qu'il me reste juste mon dimanche parce que le samedi, je le dors. Là. Fait que, puis là, c'est un autre TSO dans la semaine qui suit, qui fait que dans ma journée de congé, je suis au lit toute la journée parce que je suis trop fatiguée, ce qui est le cas de beaucoup de mes collègues. Donc, on n'en a pas de journée de congé pour aller voir nos proches. Là. Il nous en reste une par-ci, par-là, tout simplement. Donc, ce serait idéal, je crois, que si les temps partiels revenaient des 0.7 ou des 0.8, donc pour expliquer aux gens, c'est 0.7, c'est une semaine, 4 jours, l'autre semaine, 3 jours de travail. 1.8, c'est 4 jours, une semaine, puis 4 jours, l'autre semaine. Et c'est qu'à ce moment-là, oui, il y avait des problèmes à l'urgence, ça c'est clair. Mais par contre, en travaillant moins, il y avait moins d'absentéisme, puis on était plus propice à vouloir aller aider notre équipe puis à rentrer un petit peu plus tôt pour dégager les infirmières de nuit, par exemple, qui ont été obligées de rester. Mais là, en travaillant à temps complet, plus du TSO, là, on peut plus aider parce qu'on n'a plus l'énergie.
Oui, j'allais dire, les primes, le temps double, est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que ça a un effet positif?
Le temps double n'a pas d'effet positif, ni le 15 000 que le gouvernement nous a suggéré. Parce qu'il ne faut pas avoir de maladie, pas d'absentéisme du tout pour avoir accès à cet argent-là. Sauf que naturellement, j'ai beaucoup de collègues qui ont eu la COVID. On a eu d'autres collègues qui ont fait des dépressions. On a eu des gens que leur enfant était malade et ne pouvait pas rentrer travailler. Donc, automatiquement, cet argent-là est perdu. Donc, on ne l'a pas, cet temps double-là. Tout cet argent-là que la population pense qu'on l'a, nous ne l'avons pas.
Est-ce que vous êtes optimiste, pas strictement pour Maisonneuve-Rosemont, là, mais quand vous regardez à partir de votre expérience, ou si c'est comme un mur que vous voyez?
Pour le moment, je vois un mur, mais j'ai envie d'être optimiste pareil. J'ai envie qu'on trouve des solutions. J'ai envie qu'on aille dans les cégeps, les universités, puis qu'on fasse valoir notre profession. Plus on va être d'infirmière, moins il va y avoir de manque. Puis je pense que c'est cette vision-là qu'on doit avoir. Puis on doit demander au gouvernement que, avec toutes les atrocités de choses qu'on voit, on peut pas travailler à temps complet. Imaginez, là, il nous arrive, par exemple, il y a 3 semaines, un enfant en arrêt cardio-respiratoire. Mais moi, là, 2 minutes après, faut que je sois encore m'occuper d'autres patients, là. Mais je viens de voir un petit bébé mourir. Donc, il nous faut du temps partiel parce qu'on vit trop de choses émotives pour être capable de travailler à temps complet en plus de faire du TSO et d'être disponible pour nos familles et notre santé. Fait que moi, je pense qu'il faut faire quelque chose, mais je vois un mur, mais je pense que le mur pourrait peut-être être rentable. Je pense qu'on pourrait peut-être continuer d'être optimiste. Puis je pense que c'est à nous, les plus vieilles infirmières, mettons expérimentées, ça serait plus joli,
oui.
D'encourager nos jeunes à dire, ben découragez-vous pas, plus on va être, puis plus on va y arriver. Mais ça se parle aussi, là. Donc, une jeune mère de famille, par exemple, une jeune infirmière qui a 25-26 ans, qui a 1.7, qui travaille 4 jours une semaine, puis 3 jours l'autre semaine, a la possibilité de pouvoir élever ses enfants. Donc ça, c'est beaucoup plus attrayant.
Madame Paquette, il y a une chose qu'on perçoit dans vos propos, c'est à quel point ça vous tient à cœur, à quel point là c'est pas juste un travail. Je cherche le mot là, mais on sent votre passion pour ce que vous faites, puis que vous la transmettez.
Je suis déchirée, ok, je suis déchirée. Je suis déchirée parce qu'en ce moment, je pense peut-être aller enseigner ou quelque chose comme ça, mais j'aime trop mon travail. J'aime mon travail, j'aime mon équipe. On a des patrons extraordinaires. À Maisonneuve-Rosemont, les médecins là, sont tellement aidants. On a des médecins extraordinaires qui nous aident, qui nous avertissent quand il y a des choses urgentes à faire. Dimanche, ils nous ont tous commandé de la pizza pour toute l'équipe. Je suis déchirée parce que j'aime vraiment mes patients. Puis je le sais que dans la vie, moi, je suis encore comme infirmière, celle qui tient la main, celle qui va flatter les cheveux, celle qui va chanter une chanson à un patient en train de mourir, puis je vais toujours être comme ça. Ça m'épuise plus peut-être que quelqu'un d'autre, mais je ne vais jamais changer. Donc, je veux rester la Mélanie humaine, puis je veux rester la Mélanie émotive, même si ça peut paraître trop émotif pour certains, parce que moi, je pense que quelqu'un qui est trop dur, puis quelqu'un qui n'a pas de cœur, ça ne se travaille pas, mais quelqu'un qui a un grand cœur, puis qui est émotif, ça se travaille. Donc, moi, je veux garder mon grand cœur.
Madame Paquette, je ne sais pas comment vous remercier, je ne sais pas comment vous dire à quel point votre témoignage est important, puis plus des gens comme vous vont prendre la parole, plus des gens comme vous vont venir dire aux Québécois, voici ce qui se passe. Pas toujours des porte-paroles, pas toujours des leaders syndicaux, mais des gens comme vous qui l'avez vécu en fin de semaine. Un témoignage qui n'a pas de prix. Merci vraiment énormément d'avoir pris ce temps-là avec nous.
Un gros merci de m'avoir donné la parole. Ça m'a fait du bien. Puis je vous remercie de tout cœur. Puis bonne journée à vous.
À vous aussi. Mélanie Paquette est infirmière à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Un témoignage comme on en entend rarement. Je me tourne maintenant vers Dr. Judy Morris, qui est urgentologue et présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Bon, Maisonneuve-Rosemont, c'est un cas, mais on a vu en fin de semaine d'autres hôpitaux avec des taux d'hospitalisation à l'urgence élevés, là, du 150, d'occupation, le 150, j'ai vu 194%. Docteur Morris, bonjour.
Bonjour.
Ce qui se passe à Maisonneuve-Rosemont, là, c'est pas un cas unique dans le réseau de la santé, c'est malheureusement le quotidien dans beaucoup de salles d'urgence.
Ben, ça a été le quotidien pour une grosse partie de l'été. Là, il y a eu des sit-in dans les Laurentides. Il y a eu des difficultés sérieuses dans plusieurs régions du Québec. On rappelle qu'il y a 6 urgences de fermer préemptivement depuis le début de l'été, dont la Chine. Donc, ça a été difficile là, pas mal partout. Puis les chiffres dont vous parliez, on les a vus de façon répétée dans plusieurs établissements du Québec durant tout l'été, là, des 150, 160, 200% d'occupation dans certaines urgences.
Mais c'est comme toujours la même chose. On manque de personnel, il y a des gens qui... on manque de lits, donc on n'est pas capable. Il y a des gens qui devraient pas être là, mais qui sont là, c'est toujours, toujours, finalement, les mêmes ingrédients.
C'est pas mal souvent les mêmes ingrédients. Puis, tu sais, quand on parle de l'urgence, on en parle beaucoup, mais c'est le reflet du réseau. C'est le reflet que c'est partout qu'il y a des salles d'opération de fermées, qu'il y a des unités de fermées. Là où c'est dans, ça devient dangereux à l'urgence, puis j'entends bien le cri du cœur là, du personnel sur le terrain, c'est que dans plusieurs endroits, ils vont, on va fermer des salles d'op, on va fermer des unités. À l'urgence, on n'a pas le luxe de fermer, là, puis il faut gérer avec souvent le personnel réduit qu'on a en place dans nos urgences, puis ça crée souvent des situations dangereuses pour les patients.
Qu'est-ce que vous voulez dire par situation dangereuse?
Ben, imaginez-vous, là, s'il manque de personnel, s'il y a des gens fatigués qui restent en temps supplémentaire obligatoire, qui sont fatigués, qui ont peut-être plus les mêmes réflexes, des fois, ça va causer des situations, une personne au triage qui surveille 40-50 patients dans une salle d'attente, des fois, il y a des patients qui ont des conditions potentiellement critiques qui se détériorent. Par la force des choses, il y a des erreurs qui vont survenir. Les délais que ça occasionne aussi ou sur le préhospitalier, on a entendu plusieurs événements cet été là où on avait des délais d'accès, mais quand l'hôpital déborde, l'urgence est pleine, les attentes des ambulances dans l'entrée de l'urgence, ça cause des impacts même au préhospitalier, là, tout ce qui se passe dans le réseau. Fait que oui, c'est, puis la littérature nous le dit, quand ça déborde aux urgences, ça crée plus de complications puis potentiellement des mortalités associées.
On parlait la semaine dernière du retour, dans certains cas, là, à la pratique du 3 ou 4 patients dans la même chambre, dans un centre de soins de longue durée. À l'urgence, c'est pas rare qu'on se retrouve avec des cas comme ça aussi, là, de corder les patients.
Ah oui, oui, on est dans des situations souvent de débordement, de corridors, de patients, une salle à 3-4 patients, puis on monte à 10-12 patients. Donc, c'est du quotidien dans les urgences. Puis souvent, ou des fois, ben les ratios seront pas toujours respectés en termes de soins. Quand on parlait le plus tôt, elle disait, ben je suis pas capable de surveiller tout le monde, faut que je m'occupe de plusieurs patients à la fois. Des fois, ce sont des patients critiques qui sont sur les soins d'une seule personne, malheureusement, là, à cause du manque de personnel.
Il n'y a pas de solution, là. On claque des doigts puis c'est réglé, là. Comment vous voyez ça avec votre expérience?
Ben, c'est sûr que l'enjeu principal, là, c'est le personnel. Puis effectivement, c'est une situation vraiment complexe, c'est pas facile, c'est tout le système qui souffre du manque de personnel. Fait que ça, c'est certain que c'est la priorité, là, d'essayer d'aller chercher des gens, de former des gens. On n'en forme pas du jour au lendemain, mais de faciliter l'accès au personnel, au réseau. On me disait que je contribue, permettait à certaines personnes qui avaient pris leur retraite ou qui voulaient donner du temps vraiment occasionnel de venir revenir dans le réseau dans les dernières années. Là, on me dit que ce programme-là est terminé. Donc, il y a des gens qui disent, ben, soit que je viens plus ou soit que je passe par l'agence. Il semble qu'il faut peut-être garder toutes les conditions en place là pour aller chercher le plus d'aide possible pour venir nous aider sur le terrain. Mais au-delà de ça, il y a aussi une culture là à avoir. Mes collègues, les chefs d'urgence, ont sonné l'alarme au mois de juin en disant, en sollicitant leur CIS et leur CIUS, leur direction générale, de dire « faites quelque chose ». Faites des plans de contingence. On n'a pas l'impression que ça a bougé beaucoup. Il faut reconnaître que cette crise-là est là, puis je pense qu'il faut prendre les mesures là, partout à travers le réseau pour essayer de travailler à diminuer les impacts sur les patients puis sur le personnel.
Merci beaucoup, Dr. Morris. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Dr. Judy Morris, est urgentologue, présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Pour vous donner des chiffres, le taux d'occupation hier à 18 heures au Québec, région de Montréal, 136%, Sainte-Justine, 150%, Maisonneuve-Rosemont, 154%, l'hôpital juif, 202%, l'hôpital du Lakeshore, 161%, dans les Laurentides, je peux continuer comme ça. Puis ce matin, Radio-Canada nous dit que le projet d'agrandissement puis de rénovation de Maisonneuve-Rosemont passe, en termes d'évaluation de coûts, de 2,5 à plus de 4 milliards. Conséquence, faut revoir le plan. Ça veut dire retarder le projet, puis ça veut dire peut-être le faire sur une moins large échelle. On ajoutait des lits, on faisait des nouveaux locaux. C'est un hôpital vétus, c'est le mal-aimé, c'est dans l'est de Montréal, qui est mal servi. Puis vous venez de voir un peu comment ça se passe. Imaginez-vous, vous êtes dans un hôpital qu'on a abandonné en termes de qualité de structure, Puis en plus, vous êtes débordé, puis en plus, on vous fait faire du temps supplémentaire. Je prétends pas avoir les solutions, mais c'est important au moins de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Deux meurtres en 30 minutes à Montréal, évidemment, ça frappe. On sait qu'il y a eu une série d'incidents violents, des balles tirées à répétition dans certains arrondissements, mais ce qui est encore plus stressant pour la population, c'est de voir que dans un cas, ça se passe dans un stationnement, en plein jour, qu'il y a plein de gens autour. L'autre cas, c'est sur la rue Saint-Denis, dans un restaurant, encore là, en plein jour, dans un quartier où normalement ça grouille de monde. Et c'est ça qui commence à, je dirais, relever le niveau d'inquiétude. Hier, la mairesse de Montréal, le premier ministre du Québec, Mme Guilbeault, ont voulu se faire rassurant. Est-ce que vous l'êtes vraiment? La question, on pourra en débattre tantôt, mais d'abord, j'en parle avec la directrice générale par intérim du SPVM, Sophie Roy. Madame Roy, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, question très pratique. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant les enquêtes là, sur les deux meurtres qui ont été commis mardi?
Ben, vous comprendrez que c'est des situations assez particulières. Donc, oui, il y a eu à tout le moins un véhicule qui a été localisé, le véhicule suspect dans l'événement de Côte-des-Neiges. Par contre, pour les autres, on va laisser le temps aux enquêteurs de faire leur travail.
OK. Ce que les Montréalais veulent savoir, je pense, de vous ce matin, là, parce qu'on a une guerre de chiffres sur le nombre de policiers. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Monsieur Francoeur est venu nous dire, je regarde les chiffres dont il nous parle, là. Lui, il dit que c'est autour de moins 72 policiers en date du 15 août. Vous êtes la bosse. C'est quoi le portrait? Est-ce qu'il y a moins de policiers? Est-ce qu'il y a plus de policiers? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
Est-ce que il manque des policiers ou est-ce que je prendrais plus de policiers? Assurément, je prendrais plus de policiers. Et effectivement, dans les dernières années, le cycle de carrière des policiers a fait en sorte qu'il y a eu des retraites et le cycle de dotation n'a pas réussi à combler les départs. Donc, ça veut dire que oui, il y a des départs qui sont pas comblés. J'ai des postes vacants au sein du SPVM.
Mais là, si je prends les chiffres de M. Francoeur, là, puis je vais en faire une guerre de chiffres. Que...
Non, c'est ça.
Il y a une vingtaine d'embauches, il y en a 16 qui sont désistées, c'est vrai ça?
Effectivement, il y a eu une vingtaine d'embauches prévues pour le mois de septembre. 16 policiers, ce sont 16 aspirants policiers se sont désistés. Vous comprendrez qu'au SPVM, à l'été, il n'y a pas eu d'embauche. Certains corps de police ont embauché, donc ces policiers se sont désistés pour aller ailleurs. Par contre, évidemment, on a embarqué rapidement sur la situation. Nos 20 policiers ont été trouvés pour la prochaine embauche.
Puis est-ce que c'est vrai que 43 démissions supplémentaires sont arrivées de gens qui étaient déjà des policiers là, à l'emploi puis qui ont décidé de quitter pour aller travailler ailleurs?
Malheureusement, oui. Les chiffres de M. Francoeur sont bons. On a des départs au sein de l'organisation. Vous avez des enfants, j'ai des enfants. Notre génération, la génération plus jeune, est plus flottante, on pourrait dire. Donc oui, il y a des mouvements de personnel à ce niveau-là pour toutes sortes de raisons. Les gens veulent... La pandémie leur a fait une réflexion chez nos policiers. Ils veulent se rapprocher de la famille. Il y a les coûts de la vie aussi, l'inflation sur l'île de Montréal, le prix des résidences. Évidemment, il y a peut-être aussi des situations qui découlent de la structure du SPVM et c'est là-dessus qu'on travaille. Chaque policier qui quitte le SPVM est rencontré pour connaître ses raisons, que ce soit professionnelles ou personnelles. Évidemment, s'il y a des raisons qui touchent l'organisation, on fait en sorte qu'on va essayer de changer.
OK. Juste pour compléter les chiffres, 160 départs à la retraite. C'est vrai ça aussi.
J'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de 160-180 par année. Et vous comprendrez que cette année, on a 220 embauches. On a 130 embauches qui s'en viennent d'ici à la fin de l'année. Donc, avec 220 embauches, 180 départs, on a un surplus de 40, mais il faut à tous les années bâtir ce nombre-là.
Mais ça veut dire que quand... Puis là, je veux pas vous mettre en...
En porte-à-faux.
Avec la mairesse, là. Mais quand la mairesse me dit, j'ajoute 250 policiers, quand je calcule ceux qui partent à retraite, ceux qui étaient supposés être là, qui sont pas là, ceux qui ont plus jeunes qui quittent, c'est pas vrai qu'on en ajoute 250, là. Ça veut dire qu'en bout de ligne, là, on arrive peut-être à maintenir à flot, puis...
On a un surplus annuel de 40-50 policiers.
Mais c'est pas 250,
mais, là. Mais en fait, on ajoute aux effectifs, mais il y a des départs.
OK, mais c'est parce que l'image que j'ai, moi, quand j'en ajoute, ouais, là, c'est parce qu'il y en a plus.
Ouais.
Donc, en bout de ligne, il n'y en a pas vraiment beaucoup de plus.
Il y en a entre 40 et 50 de plus.
OK. Ça vous en prendrait combien de plus?
Ça m'en prendrait. Écoutez, hier, on a mis en place un comité d'experts, là, évidemment, avec les événements, pour réfléchir à la structure. Ça prendrait plus de policiers. J'ai fait les demandes en conséquence au ministère, à la ville, pour à tout le moins combler nos postes qui sont vacants actuellement. On est conscient, par exemple, qu'il y a une pression sur la dotation, sur l'École nationale de police, sur toutes les ressources qui doivent travailler pour faire cette dotation-là. Si je vous disais que ça me prend 500 polices, c'est évident que je serais pas capable d'embaucher, même avec un budget 500 policiers cette année, parce que la pandémie a eu quand même un impact sérieux sur nos candidats. Donc, ça retarde un peu le processus. Mais assurément, je vous parle de quelques centaines de policiers.
Ça serait le bienvenu.
Ça serait le bienvenu dans le contexte actuel. On voit la criminalité a changé. C'est en mouvance continuellement. Donc, le service de police aussi doit s'adapter, doit ajouter, soit changer sa structure, soit modifier ses ressources, soit modifier ses façons de faire. On réfléchit là-dessus, mais assurément, si on peut combler certains postes vacants, ça va venir nous aider. Moi, ce qui me préoccupe, je l'ai dit hier, c'est la santé mentale de mes policiers puis la santé physique de mes policiers. Est-ce qu'on est capable de répondre présentement à notre mission de base? Assurément, j'ai aucun problème à le dire. Je suis fière du travail qui a été fait. Dernièrement, vous avez vu, il y a eu des arrestations, il y a eu des saisies d'armes, il y a eu les policiers sur le terrain, nos patrouilleurs travaillent. Mais par contre, évidemment, on est obligé parfois d'avoir recours comme une saison estivale où ce que les gens sont en vacances, où il y a des congés de paternité, etc. On est obligé d'avoir recours à du temps supplémentaire. Et ça, ça a un impact sur la santé mentale et physique de mes policiers.
OK. Vous savez que je parle à beaucoup de policiers.
Oui.
Puis que beaucoup m'écrivent aussi. Puis j'aimerais partager avec vous certaines de leurs réflexions. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Par exemple, quand on crée une escouade spéciale ou un groupe de travail, un projet particulier, compte tenu des effectifs dont on vient de parler, malheureusement, on va dégarnir à des endroits pour aller équiper ces unités, ce qui fait qu'on se retrouve dans certains postes de quartier à certains moments de l'année, sur certains quarts de travail, avec pas beaucoup de patrouilleurs qui sont affectés sur le terrain. C'est vrai ça qu'on déshabille pour habiller l'autre?
Ben, il y a deux volets. Le premier volet, c'est nos équipes spécialisées. Bien entendu, on a, et ça c'est une demande que j'ai faite, c'est de combler justement les équipes spécialisées lorsqu'on les comble, aller chercher le bout de chaîne finalement pour s'assurer que tous nos effectifs sont comblés. C'est une demande que j'ai formulée hier. La deuxième chose, c'est qu'évidemment dans une saison estivale, comme toutes les organisations policières, comme toutes les compagnies, comme toutes les entreprises, bien évidemment, on a des absences qui sont prévues dans un contrat de travail. Donc, assurément, on réduit nos effectifs à ce moment-là en raison des vacances annuelles. Par contre, on a recours au temps supplémentaire et c'est ça aussi que vous entendez assez fréquemment.
L'autre question. Beaucoup, mais vraiment beaucoup, là. Puis M. Francoeur m'a dit qu'il entendait la même chose. Vous me direz, c'est le président du syndicat. Vos policières, vos policiers se sentent pas appuyés par la ville. Vous êtes la directrice, vous l'avez dit, puis vous avez renouvelé votre appui, puis vous êtes fière de votre monde avec raison, là. Mais ils ne sentent pas cet appui-là quand le parti politique de Mme Plante jongle avec des idées de définancer la police.
J'ai entendu la même chose de la part de M. Francoeur, évidemment. C'est quelque chose qui circule sur le terrain. Je connais pas les fondements, je connais
mais
pas.
Mais vous entendez ça, vous
mais
aussi.
Je l'entends, effectivement. Par contre, je vois aussi les efforts qui sont faits du côté de la ville pour supporter son service de police, évidemment, et de la mairesse, les paroles, les ajouts qui ont été faits au niveau de la ville pour essayer de compenser ce qu'on a, mais j'entends la même chose que vous.
Beaucoup de policiers me disent aussi que c'est difficile de faire le travail. C'est-à-dire que ils ont l'impression qu'ils s'exposent à chaque fois. Si j'interpelle quelqu'un, est-ce que je viens de faire du profilage? Est-ce que j'avais de bons motifs? Est-ce que je vais me ramasser avec une plainte en déontologie? C'est dans le fond, là, c'est de dire, là, je suis mieux de lever le pied pour éviter de me mettre dans le trouble?
Écoutez, je trouve que le tribunal populaire est sévère et rapide à l'égard de mes policiers. Je peux vous dire que le travail qui se fait sur le terrain est beaucoup plus difficile que le mien. Ça, je suis convaincue. Ça a beaucoup changé au fil des années. Ce sont des humains. Ils sont confrontés quotidiennement à des drames humains aussi. Mais je sais qu'ils ont un engagement soutenu. Ils ont une vocation. Là, ce qu'on voit présentement, on entend beaucoup parler de violence armée. C'est le temps à la population de démontrer son appui haut et fort aux policiers. C'est ça que les policiers ont besoin. Sur le terrain, ils se font intimider, ils se font insulter, ils se font filmer, vous le dites. Mais là, la population en général, dans sa globalité, je pense, respecte sa police. Mais c'est le temps de le dire, c'est le temps de démontrer son soutien, parce que nos policiers ont besoin de ça.
Je poursuis toujours avec les confidences de vos policiers. Mais plusieurs, puis même au niveau de certaines unités plus spécialisées, me disent, pour faire face, puis c'est pas que la réponse, là, mais ça fait partie des réponses, il faut être présent, il faut être visible, il faut que ça soit à haute fréquence. Il faut les intimider, ces bombes-là. Il faut les quand ils commettent des gestes comme ceux de cette semaine, il faut aller voir les endroits qu'ils fréquentent, les bars, les restos, et autrement dit, leur passer un message. Êtes-vous d'accord avec l'approche de dire qu'il faut shaker la cage?
En fait, hier, dans le comité, on a discuté de ça. Il y a un sentiment d'impunité qui est très, très fort présentement. Vous le savez, tout ce qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, l'apologie des armes à feu, etc. Donc, il faut effectivement aller passer des messages. Je pense que si on veut renverser le sentiment d'impunité, il faut être de plus en plus présent sur le terrain. Il faut faire nos enquêtes, il faut avoir du renseignement. Mais évidemment, on a besoin aussi de la population parce que la population voit des choses, entend des choses. Mais absolument, il y a des messages qui se passent. On l'a fait ce printemps, ça a calmé un peu le jeu. On recommence, on relance ce type d'équipe-là. Et je pense que ça peut porter ses fruits. Il faut que le sentiment d'impunité cesse.
Que vous allez les brasser un peu, que vous allez déranger, disons, leurs activités régulières.
Ça se peut qu'on dérange, mais évidemment, par la bande, faut comprendre que quand on fait des visites de bar, qu'on fait des visites de restaurant, le sentiment de sécurité du citoyen est très personnel. Donc, pour le citoyen qui est assis dans un restaurant, son restaurant habituel, et qui voit des policiers débarquer, ça peut aussi activer son sentiment d'insécurité. Donc, faut que les gens comprennent que ça veut pas dire que c'est un milieu criminalisé, mais qu'il faut qu'on soit présent, qu'il faut qu'on soit visible. C'est ça le message que je veux passer aujourd'hui.
C'est ça, leur passer à eux un message aussi. Oui. Quand vous voyez un gars qui importe illégalement 250 guns dans une poche de hockey, puis qui fait pas un an de prison, puis qu'on nous explique que c'est un gentil garçon maintenant, puis qu'il faut comprendre la réhabilitation, quoi votre réaction?
Écoutez, j'étais pas sur le board des commissaires, mais assurément une certaine surprise, disons ça comme ça, une certaine déception à cet égard-là. Comme je vous dis, je sais pas tous les détails de l'événement comme tel, mais c'est beaucoup d'armes à feu qui auraient pu faire énormément de victimes et beaucoup de dommages. Donc évidemment, vous sentez ma réserve, mais à tout le moins on peut parler de surprise.
OK. Est-ce que vous pensez dans les stratégies à rappeler des policiers qui sont à la retraite, qui pourraient, pour une période de temps, comme on le fait dans le réseau de la santé, je vous dirais, là, donner un coup de main, des policiers, par exemple, d'expérience dans certaines unités?
C'est une option à envisager. C'est une option à envisager. J'ai parlé de ça avec l'équipe hier. Évidemment, il faut regarder aussi la possibilité de le faire. Vous comprendrez, ils sont payés, retraités par la ville et là, un deuxième salaire qui rentrerait. Mais c'est une possibilité à regarder qui viendrait aussi le niveau d'expertise et d'expérience au sein du SPVM.
Merci beaucoup d'être venue ce matin, Mme Roy.
Merci.
Au revoir. Sophie Roy, la directrice par intérim du SPVM.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va tout de suite maintenant écouter notre amie Tetiana Ogarkova, qui est journaliste en Ukraine, parce qu'aujourd'hui, d'abord, sixième mois de cette guerre, de l'invasion russe, et également, c'est le jour de l'indépendance, 31 ans que ce pays est devenu indépendant. Alors, je lui ai demandé un peu ce matin de faire le bilan et de nous dire où on en était à la fois de façon globale, mais aussi personnellement.
Oui, c'est une journée tout à fait importante pour des millions d'Ukrainiens aujourd'hui qui coïncide avec la fin du sixième mois de l'invasion russe. Donc le bilan est très pessimiste pour l'armée russe puisque jusqu'à là, ils n'ont pas réussi à accomplir leur projet qui consistait à prendre toute l'Ukraine, à décapiter l'Ukraine, à imposer leur gouvernement. On a démontré que l'Ukraine est un pays très fort, très courageux on continue notre résistance avec de plus en plus de contre-attaques avec succès, en fait, notamment en Crimée et au sud de pays. Donc, on se félicite d'être ensemble. On connaît déjà le prix, en fait, de l'indépendance puisque selon l'information communiquée il y a quelques jours, 9000 soldats ukrainiens ont déjà perdu leur vie lors de cette attaque depuis février. Plusieurs milliers de civils ont aussi péri dans ce conflit. On connaît le prix de l'indépendance. On est très, on dit merci tous les jours à nos forces armées qui nous permettent de vivre librement dans nos maisons et de continuer à résister. Il y a très peu de doutes ici en Ukraine quant à la victoire qui sera là. Elle sera pas là demain ni après-demain, mais on est prêt à continuer cette résistance pour que la justice soit là et pour que l'Ukraine reprenne tous les territoires qui ont été volés à notre pays depuis 2014 et pour qu'il y ait la justice et la punition de la Russie pour cette agression injustifiée.
Plusieurs craignent que la Russie profite de cette journée de l'indépendance pour frapper plus durement, que des bombardements se multiplient. On dit que les citoyens, par exemple, à Kiev, sont invités à rester chez eux. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain?
Ce matin, on était réveillés par une alerte aérienne, comme plusieurs jours avant, mais cette journée, c'est un peu spécial. On a déjà appris qu'il y avait des frappes contre la région de Dnipro et contre la région de Poltava. Donc, la ville Mergorod, donc c'est le cœur de l'Ukraine, c'est le centre, en fait, du pays. On connaît pas le nombre de victimes, ni blessés, ni morts, ni destructions qui sont là, ça va venir. Mais on voit que la Russie fait tout pour nous gâcher cette journée importante. La journée vient de commencer, il est midi chez nous, donc on est un peu inquiet, bien sûr, pour des frappes qui ont été annoncées par le gouvernement, mais aussi par des renseignements étrangers. Mais nous tenons bon et nous espérons que la journée va se terminer d'une manière plus tranquille et que de toute manière, même s'il y a des frappes, donc on va continuer demain et après-demain.
Voilà, c'était Tetiana Ogarkova qui nous parlait ce matin en direct de l'Ukraine.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Cette fameuse photo, ce portrait de Winston Churchill qui a été volé au château Laurier, remplacé par une copie. Et là, évidemment, toutes les questions sont sur la table. Qui a pu faire ça? Quelle est la valeur de la photo en question? À quel moment le crime a été commis? Il semble qu'on commence à avoir un certain nombre d'éléments. Et j'en parle ce matin avec Mme Geneviève Dumas, qui est la directrice générale du Château Laurier. Mme Dumas, bonjour.
Bonjour, M. Larkin.
D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur le vol comme tel, les circonstances? Qu'est-ce que vous savez?
On a remarqué vendredi dernier que le cadre n'était pas accroché correctement et en faisant plus de recherches, normalement ce cadre-là aurait dû être sécurisé, barré dans le mur par 4 attaches sécurisées et là il n'était que suspendu par un fil de métal. Donc on a tout de suite eu des inquiétudes et on a poussé plus les recherches, on a fait vérifier le portrait en question par la Fondation Karsh qui nous ont confirmé que c'était une copie.
Quand vous dites normalement il est sécurisé par 4 cadenas là, attaches là, ça veut dire que ce portrait-là, le voleur ou les voleurs ont réussi à le voler assez simplement quand même, non?
Ça prend des gens qui connaissent ça. J'ai regardé la série Lupin, donc je peux croire qu'il y a des méthodes que les gens connaissent. Ça prend quelqu'un qui avait l'outil, premièrement, parce que c'est des systèmes sécurisés. Qui sont arrivés, qui ont fait la substitution du portrait par une copie. Il était tellement proche de la réalité qu'on n'a pas réalisé. Mais moi, j'ai montré ce faux-là pendant plusieurs mois à des gens sans jamais pouvoir penser que ça pouvait être une copie.
Mais là, vous avez établi probablement que le portrait a été volé entre Noël et le 6 janvier.
Effectivement, c'est des gens, depuis qu'on est allé public avec l'information, on a reçu énormément de photos. Et maintenant que je le sais, c'est évident. Là, la photo est un petit peu plus à la gauche comparativement à l'original. Donc, en recueillant toutes ces photos-là du public qui se sont pris en selfie ou qui ont posé le portrait, on a été capable de retracer les dates entre le 25 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. Donc, si quelqu'un pendant cette période, serait venu au Château Laurier, aurait pris une photo de ce fameux portrait. On aimerait avoir cette photo-là pour pouvoir comparer et essayer de cibler la date exacte où il y a eu la substitution. Puis on se rappelle, on veut pas se rappeler, mais on se rappelle que cette période-là, c'était la COVID, on était en restriction. Il y avait presque pas de clients à l'hôtel, étant donné que tout était presque fermé. Donc, c'est sûr que ça établissait peut-être une façon plus simple de substituer le fameux portrait.
OK. Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance? Je veux pas le détail de votre sécurité, mais est-ce que il y a des images qui existent en permanence qui montrent la photo?
Ben effectivement, on a des caméras de surveillance partout dans l'hôtel. On a de la sécurité 24 sur 24. Toutes les portes de l'hôtel sont barrées, sauf la porte principale durant la nuit. Mais même si on a le footage et tout ça, que la police fait son enquête, mais même avec tout ça, j'imagine que c'était le masque obligatoire. On a besoin de plus que ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est allé manger chez un ami et qui ont vu un portrait de Winston Churchill, ou il y a quelqu'un à quelque part qui sait où est ce fameux portrait qui est vraiment très important pour le Château Laurier, étant donné l'attachement avec la famille Kirsch. On cherche à le retrouver. Peut-être je suis trop optimiste et positive, mais j'aimerais vraiment que on ramène ce cadre-là où il devrait être affiché, ce qui soit dans le Château Laurier.
Mm-hmm. Parce qu'on connaît rien du voleur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pour quel motif. C'est une commande, c'est quelqu'un qui l'a volé pour le revendre, ou c'était vraiment une commande précise. Moi aussi, j'ai vu Lupin, là. Il n'y a pas de détails sur... ça peut même être quelqu'un de l'hôtel.
J'oserais pas croire, mais toutes les pistes sont sur la table en ce moment et la police doit faire son enquête pour essayer d'élucider. Mais faut se rappeler que la famille Koch a habité ici pendant 18 ans. Ils ont eu leur studio de photographie et cette photo-là est tellement reconnue à travers le monde pour toute son histoire que c'est une pièce non seulement qui nous tient à cœur, mais qui fait partie de l'histoire internationale, là. C'est précieux pour nous.
Ça vaut combien? Est-ce que ça a déjà été évalué?
Il y a plusieurs experts qui se sont prononcés. Je pourrais pas vous dire, je ne suis pas experte dans la nature, mais je peux vous dire que pour nous, Château Laurier, c'est une valeur inestimable.
Mais les experts disaient quoi comme valeur?
Ben, j'ai entendu, ça variait entre 50 000 US, 100 000 $. Il y a plusieurs chiffres qui sont sortis. Mais je pense que c'est au-delà de ça. C'est tellement une photo, une icône de ce portrait que ça vaut plus que ça pour nous de
ça,
façon sentimentale.
Je comprends. Merci beaucoup, Mme Dumas. Bonne journée.
Un plaisir, merci.
Au revoir. Geneviève Dumas est la directrice générale du Château Laurier.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.